Le voyage que vous allez entendre est une rediffusion.
Si loin, si proche, le rendez-vous des voyages. Céline Develay-Mazurel, Laure Alary.
There's no such thing as a tour. It's all an idea, not a reality. Travel is real.
Le tourisme n'est rien. C'est seulement une idée, pas la réalité. Le voyage, c'est réel. Parce qu'on peut s'enliser dans un endroit pendant des années, parfois pour le restant de sa vie. On ne sait jamais ce qui peut arriver. On n'est jamais sur la bonne voie et l'on n'a pas de maison où rentrer quand on a fini. Donc, on continue d'avancer. Ce n'est pas du tourisme, c'est juste voyager.
Bonjour à tous, c'est un porte-cigarette à la bouche, en veste de velours noir et col roulé bleu, nonchalamment posé face à la baie de Tanger au nord du Maroc, que l'écrivain Paul Bowles dissertait dans les années 70 sur le sens qu'il donnait au voyage. Lui, l'Américain errant, nomade, qui a pourtant posé ses valises plus de 50 ans dans la mythique cité marocaine. Avant lui, et encore plus après lui, de nombreux artistes occidentaux, qu'ils s'appellent Delacroix, Matisse, Kessel, Genet, Beckett ou Burroughs, sont allés chercher à Tanger un souffle, second peut-être, une lumière propre à la cité maritime, ainsi que les fantômes des plus illustres passés avant eux. À Tanger, à l'ombre d'Ibn Battuta, l'éternel et immense explorateur marocain du XIVe siècle, Paul Bowles fait figure de dandy, presque sédentaire, mais aussi de guide non officiel de cette ville cosmopolite et interlope qu'était et qu'est encore Tanger. À l'occasion des 20 ans de la mort de l'écrivain, Inès Edel Garcia est partie sur les traces de cet insaisissable personnage, révélé au monde par son roman « Un thé au Sahara » sorti en 1949. Un esprit libre, tourmenté, à la fois écrivain, compositeur, ethnomusicologue à ses heures et traducteur. Un étranger, un Américain à Tanger.
Paul Bowles est venu pour vivre une ville. Après être inspiré par ce qu'il a vécu, commencer à écrire sur ce pays, Un thé au Sahara est venu comme ça. Peut-être c'est le désert, mais c'est parti d'ici. Il était difficile de le sortir de Tanger. Et lui ne voulait pas se déplacer ailleurs. C'était juste pour aller voir un éditeur, pour un gros entretien avec une télévision étrangère, etc. Autrement, il ne trouvait pas un autre monde meilleur où il se trouvait, où il vivait. Et ça, c'est très important. Et ce qui fait qu'il a fini par drainer des journalistes, des personnalités importantes qui avaient besoin de le voir. Il a servi Tanger, et c'est important. Paul Bowles fait partie de cet immatériel tangérois qui a construit, ou qui a aidé à construire, ce mythe. Parce que le mythe, qu'est-ce que c'est? On en parle. Des fois, on me demande de le résumer. Je ne saurais le résumer. Souvent, je dis, c'est peut-être l'air qu'on respire à Tanger qui fait envahi intérieurement par quelque chose qu'on ne saura jamais expliquer. Elle est en nous. Et Paul Bowles, sûrement, c'est ce qui a dû lui passer, c'est ce qui a dû lui arriver. Il parlait du vent d'Est, Paul Bowles aussi. Il a parlé beaucoup de fois du vent d'Est. C'est notre charqui avec le kaf. Alors le vent d'Est, qu'est-ce qu'il fait au Tangérois? Dans son lit, le Tangérois, il sent que le charqui est en train de se lever. Parce qu'il est mal à l'aise, parce qu'il a mal à tête un petit peu. Et les Tangérois, qui le deviennent, les nouveaux, ils deviennent Tangérois quand ils commencent à sentir le charqui dans leur lit. C'est pas de la blague. Je crois, c'est ce charqui qui transmet le virus de la ville. Et le virus de Tanger, il est incurable.
Dans le détroit de Gibraltar, entre Atlantique et Méditerranée, le vent d'Est vient balayer les rues blanches de Tanger et les songes de ceux qui y vivent. Le Marocain Rachid Tafer Siti, écrivain et président de l'association Al-Bougaz, qui œuvre pour préserver le patrimoine historique de la ville, vient de le dire. Ce vent charrie aussi les mythes et les légendes, nombreuses au sujet de cette cité portuaire qui en a envoûté plus d'un. A commencer donc par Paul Bowles, fils de dentiste new-yorkais, né en 1910, qui va devenir à Tanger un écrivain. Mais pour comprendre la géographie sensible et désenchantée de ce romancier en exil, qui aimait à décrire la violence des lointains et la cruauté de l'ailleurs, il faut revenir à Paris, aux côtés de celle qu'il a connue dès 1973, la Française Claude Nathalie Thomas, 90 ans aujourd'hui. Elle a été la traductrice et l'amie de Paul Bowles.
Nous sommes arrivés sur le palier. Voilà ce que je voulais vous montrer. Cette bibliothèque, elle est consacrée en très grande partie à Paul Bowles, aussi un petit peu à mes traductions. Moi, je ne sais pas vous dire combien il y a de livres, mais il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangées sur environ 2,50 mètres de longueur ou 3 mètres. Le premier, le Thé au Sahara, est celui qui a le plus impressionné le monde. Mais ce n'est pas mon préféré pour relire. Moi, ce que j'aime relire, c'est ou bien La Maison de l'Araignée, ou bien un qui s'appelle en anglais Up Above the World, qui a été traduit avec le titre La Jungle Rouge.
Vous avez beaucoup de livres en anglais, surtout. Sauf bien, là, je oui. vois Paul Bowles, Le Scorpion, Paul Bowles, Après toi le déluge.
J'ai même une traduction en allemand.
Días y viajes de Paul Bowles, aussi
oui,
en espagnol.
Alors ça, ce sont tous ses articles de voyage, parce qu'en fait, il ne voyageait pas entièrement gratuitement, hein, mais il se faisait payer une partie de ses voyages par des éditeurs. Le voyage a occupé une grande partie de son temps, mais en même temps, ça remplissait un peu son œuvre. Ce qui l'intéressait, à ce que je crois, c'est la relation à l'autre. Et quand on voyage, on se trouve dans un pays où les gens sont autres.
Alors là, on voit Réveillon à Tanger, La Jungle Rouge. Vous avez La Maison de l'Araignée quelque part? Où est-ce qu'elle
oui,
pourrait
je
être?
Je pense.
Ah, elle est ici. Je la vois. Voilà. Qu'est Voltaire.
Ici. Ah. Voilà. Alors, il faut trouver cet exergue, il est en plusieurs parties. Voilà, le livre 3, qui s'appelle « L'heure des hirondelles ». À mon sens, il n'est pas d'état plus exquis que celui d'étrangers. C'est pourquoi je me mêle aux êtres humains qui ne sont pas de mon espèce. Précisément afin d'être un étranger parmi eux. Chanson de l'hirondelle des Mille et Une Nuits.
Ça parle beaucoup de lui, finalement.
Oui, ça parle de lui et ça parle de sa vision du monde, qui est une vision, mettons, de poète. Pourquoi voyager? D'abord parce qu'il voulait quitter les États-Unis, qui ne lui convenaient pas.
Pourquoi?
Ça, il faudrait peut-être qu'il soit vivant pour vous répondre. Il était peut-être content au départ de se soustraire à l'ambiance familiale.
À quoi ressemblait justement son enfance au début du XXe siècle en Amérique?
Oui, alors, il le raconte très bien dans son autobiographie. C'était un enfant très isolé par un père qui ne voulait pas qu'il fréquente qui que ce soit. Les seuls grands moments de plaisir, c'était quand il allait à la ferme de sa tante maternelle dans la campagne, dans le nord de l'État de New York. Donc il était enfant unique, n'avait pas d'autres enfants avec lui. En revanche, il était certainement très avancé pour son âge sur le plan intellectuel. Il avait appris à lire pratiquement tout seul parce qu'il était mal à l'aise avec ses pairs quand il a finalement été à l'école. Et il était mal à l'aise en général puisqu'il a quitté les États-Unis à 17 ans.
C'est en fait à près de 19 ans que Paul Bowles embarque sur un paquebot pour sa première transatlantique avec 25 $ en poche. Direction l'Europe, Paris et ses cercles littéraires de l'entre-deux-guerres. À l'époque, Gertrude Stein, écrivaine américaine, tient salon. Et elle reçoit toute l'avant-garde de son temps, ainsi que les étrangers de passage comme Paul. C'est d'ailleurs elle qui va l'envoyer vers Tanger dès 1931. Plus tard, Paul Bowles se marie et avec son épouse, l'écrivaine Jane Auer, ils vont devenir des figures en vogue d'un New York mondain que Broadway éloignait du fracas des bombes. Car en Europe, il y avait la guerre. Boyle compose alors des musiques de scène pour Orson Welles et devient critique musical. Mais il a déjà du vent dans les semelles et multiplie les voyages, en Amérique du Sud notamment. Robert Briatt a côtoyé pendant près de 20 ans Paul Bowles à Tanger et lui a consacré une biographie.
Le voyage pour Paul Bowles, c'était 3 mois, 6 mois, 1 an, voire 2 ans. Il pouvait changer de continent tout simplement par intuition. Ce qu'il fuyait aussi, c'était pas seulement, je dirais, sa famille et, disons, la bourgeoisie new-yorkaise dont il était issu. C'était aussi un mode de vie, je veux dire, qui ne lui correspondait pas du tout, du tout.
Et puis, en parlant de fuite, il fuyait aussi le macartisme, j'imagine. Il était communiste, Paul Bowles.
Oui, alors, il a été inscrit au Parti communiste américain, mais non, je ne dirais pas qu'il ait été ni communiste, ni même marxiste, à proprement parler. Opposant, oui, contestataire jusqu'à un certain point, il est surtout, en fait, révolté par ce qu'il peut découvrir au gré de ses voyages. Il est aussi dans un milieu artistique qui le prédispose à cela. Alors, au niveau de ses voyages, oui, essentiellement quand même, c'est l'Afrique, hein, et surtout l'Afrique du Nord. Maroc, Algérie, Tunisie, et plutôt par les déserts que par les côtes. Et ce qui l'intéressait, c'était aussi, je dirais, une vie douce, dans un climat plutôt favorable, et pas trop cher en plus. Hein, parce que il faut pas oublier, il a vécu de son art, mais enfin assez chichement pendant très longtemps.
Et alors, du coup, comment Paul Bowles gagnait sa vie? Comment il payait tous ses voyages?
Alors, il gagnait sa vie essentiellement par les commandes musicales qu'il a pu avoir pendant assez longtemps, hein, jusqu'à ce qu'en fait, il arrête de lui-même, en quelque sorte, de composer pour Broadway, hein, de ce qu'on appelle la musique de scène. Hein. Il écrivait beaucoup à des bienfaiteurs, des mécènes, certaines fortunes new-yorkaises. Il a reçu de l'aide de Peggy Guggenheim à certaines périodes. Et puis, bon, il a eu également été le bénéficiaire de plusieurs bourses, hein, de programmes même d'aide aux artistes, et en particulier aux artistes en difficulté. Parce qu'encore une fois, bon, il a cette image de nabab fitzgeraldien vivant à Tanger. Non, c'était assez frugal. Hein. D'ailleurs, quand il part à Tanger, donc en 1931, il y avait un palace, en fait, et un grand hôtel, c'était le Minza. Hein, et carrément, c'était 3 dollars par jour, pension complète. Pour lui, c'était le rêve. Hein, voilà.
Là, vous avez une photo d'un hôtel dans la ville nouvelle qui s'appelle Africa Hotel.
Qu'est-ce qu'on y voit sur cette photo?
On y voit l'entrée d'un hôtel et une légende qui est « Le touriste d'aujourd'hui est le psychopathe de demain ».
Ça, c'est là. C'est assez visionnaire.
Oui, l'entrée de l'hôtel est assez terrible d'ailleurs, avec un escalier, des colonnes, n'importe quoi, une ribambelle de valises installée sur les marches d'accès à l'hôtel.
Et là, sur la photo à droite, on aperçoit...
La photo à droite, nous avons Paul Bowles dans le désert. Voilà, c'est très beau. Mais ce n'est probablement pas une photo de Bowles. Le selfie n'existait pas à l'époque.
En tout cas, il n'était pas en tenue de Touareg. Il était vraiment habillé dans
une
tenue...
Oui, une tenue parfaitement américaine. D'ailleurs, on doit dire que Paul, malgré ses 47 ou 50 ans de séjour au Maroc, est toujours resté très américain. Il se faisait envoyer des douceurs américaines par des gens qui venaient le voir. Voilà la Jaguar avec son chauffeur. dans un paysage désertique aussi.
C'était un drôle de personnage. Il voyageait au milieu du désert en jaguar.
Je pense qu'il ne faisait rien comme tout le monde. Paul Bauge est un personnage, alors à mon avis, ambigu ou double, si vous voulez. Il était d'ailleurs bisexuel, surtout porté sur les garçons. Il m'a dit une fois que ses nouvelles lui permettaient de se débarrasser des moments de violence et de désespoir qu'il pouvait rencontrer.
Alors, qu'est-ce que finalement Paul Boyles a trouvé à Tanger qu'il n'avait pas trouvé ailleurs jusque-là ?
Je pense qu'il a trouvé un endroit où il pouvait se sentir à l'aise et capable d'écrire. Et il raconte très bien dans son autobiographie qu'en 1947, la guerre étant finie, il avait passé les années de guerre en grande partie au Mexique. Il s'est dit maintenant, où est-ce que je vais aller habiter ? Il ne voulait pas vraiment rester aux États-Unis. Et il a fait un rêve d'un endroit merveilleux, avec des rues couvertes. Et ceci et cela, et il s'est aperçu au réveil que cette ville de rêve existait, que c'était Tanger, dont il avait rêvé, et il est parti à Tanger.
Mémoire d'un nomade, 1972. Si je dis que Tanger me frappa comme étant une ville de rêve, il faut prendre l'expression dans son sens littéral. Sa topographie était riche de scènes typiquement oniriques. Des rues couvertes semblables à des couloirs avec, de chaque côté, des portes ouvrant sur des pièces, des terrasses cachées dominant la mer, des rues qui n'étaient que des escaliers, des impasses sombres, des petites places aménagées dans des endroits pentus, si bien qu'on aurait dit les décors d'un ballet dessiné au mépris des lois de la perspective, avec des ruelles partant dans toutes les directions. On y trouvait aussi des tunnels, des remparts, des ruines, des donjons et des falaises, autant de lieux classiques de l'univers onirique.
Rachid, est-ce que vous vous perdez encore dans la Médina ?
Ça pourrait m'arriver si je suis étourdi, si je suis en train de parler et bifurquer entre une ruelle et une autre et me retrouver. Mais en général, je ne peux pas me perdre.
Alors là, on arrive place du Petit Soco.
Oui, le cœur palpitant de Tanger, décrit par pas mal d'écrivains. Un livre de Choukri porte le titre de Au Petit Soco. Quand on est là maintenant, qu'est-ce qu'on écoute ? D'abord, les gens, comment ils parlent. Avant, il y avait toutes les langues. Vous aviez beaucoup de chansons espagnoles, ce qu'ils appellent le cancionero espagnol. Vous l'écoutiez en passant dans les rues. Vous aviez, en même temps, Mohamed Abdel Wahab, M'Kulsoum, Asmahan. Vous aviez de la musique marocaine, bien de chez nous, de la musique du terroir. Les bars, les restaurants, les cafés cohabitaient avec les lieux de culte. Dans une rue, vous pouviez indifféremment trouver l'une comme l'autre. Et puis, il y avait les banques. Il y a près de 50 banques dans les environs de la place.
Parce que beaucoup de devises étrangères s'échangeaient à l'époque.
Il y avait les changeurs. On commerçait les devises comme on commerçait des pommes de terre et des fruits. Avec des étalages, avec un petit tableau noir qu'on mettait les cours avec de la craie, etc. Ça, c'était le Tanger de la période du statut international. À qui profitait cette période ? C'est toute la question. Est-ce qu'il profitait aux autochtones ? Pas du tout. Et puis, tous les trafics qui se faisaient, En général, c'est plus des écritures. Les entrepôts fictifs que nous avions au port de Tanger. Les marchandises n'étaient même pas déposées. Elles passaient par là, les papiers passaient, mais les marchandises n'étaient pas là. C'était ce Tanger qu'on dit la période d'or. Mais est-ce que c'est l'âge d'or de Tanger ?
C'était une ville où il y avait 52 nationalités. Toute petite, il y avait 150 000 habitants. Et deux apatrides, même. Donc c'était assez folklorique, quelque part, quand on y pense maintenant. Parce que c'était toutes les puissances étaient représentées. Et on avait des passeports pour sortir et rentrer à Tanger.
Farida Benyazid, cinéaste marocaine, est l'auteur d'un film qui a pour toile de fond le Tanger de la zone internationale, époque 1923-1956.
Donc, les gens ne payaient pas de taxes. Donc, c'était vraiment la belle vie pour tout le monde, même pour les petites gens. Ils y trouvaient leur compte. C'était un lieu de refuge pour beaucoup de monde. Hein. Il y avait d'abord tous les Rojos, les communistes espagnols qui étaient venus pendant la guerre civile. Il y avait, comme c'était une ville internationale, il y avait aussi pratiquement tous les grands leaders nationalistes marocains qui venaient ici se réfugier pour pas qu'on les emmène en prison. Donc chacun vit. C'est ça que je trouve extraordinaire, c'est que chacun vit sa vie sans déranger l'autre et sans embêter l'autre. Et les homosexuels, c'est pareil. Bon, ils vivaient entre eux. Ils faisaient leurs soirées, ils faisaient leurs fêtes. Ma foi, personne n'allait voir ce qu'ils faisaient. C'était leur vie, après tout. C'est ça qui était extraordinaire, c'est qu'on n'était pas... On faisait attention à soi, on faisait pas attention aux autres. Le prestige se jouait à travers les fêtes. Donc c'était très festif. Sur l'avenue d'Espagne, il y avait des tablaos de flamenco. On pouvait aller voir à l'air libre pour tout le monde. Il y avait plusieurs salles de cinéma. On voyait beaucoup de films de toutes les nationalités, justement. Et c'était une petite ville quand même. Les Espagnols étaient les plus nombreux. Et la langue de la ville, c'était l'espagnol. Tout le monde parlait l'espagnol. Même les Anglais, qui ne parlent que l'anglais d'habitude, parlaient l'espagnol. Et Paul Bors parlait l'espagnol. Il était bien sûr tangérois, mais lui-même ne se vivait pas comme tangérois. Il était un Américain à Tanger.
Et qu'est-ce que ça change d'être un Américain à Tanger ?
Eh bien, on a quand même une distance. Hein, on ne fait pas partie de la ville, quelque part. Puis du fait qu'il soit aussi écrivain, donc il était un peu en retrait. D'ailleurs, c'est ce qu'il disait que je trouve très intéressant, c'est qu'à Tanger, finalement, chacun est assez libre d'être ce qu'il est. Il disait, il n'y a pas de vie mondaine réellement, disons, intellectuelle. Hein, il y a des écrivains, il y a des peintres, mais qui vivent leur vie tranquille, quoi. Ils ne sont pas là pour se montrer. Ils sont là pour travailler. Et quand ils doivent se montrer, ils doivent aller à Paris, à New York. Et donc, ça reste une vie très simple pour tout le monde.
Moi, Paul Bors, je trouve que c'était quelqu'un de très discret. Il était extraordinairement discret et il me donnait l'impression de vouloir passer inaperçu par rapport à ceux qui l'entourent. Même dans des réceptions, quand on le voit, ce n'est pas la personne qui se manifeste avec de grands gestes pour que les gens, pour qu'il attire l'attention. Non. D'abord, il a habité une maison qui ne se trouve pas très loin du café Hafa. Heureusement qu'il est mort avant qu'il ne devienne ce qu'il est devenu aujourd'hui, avant qu'il ne connaisse l'affluence qu'il connaît. Le café Hafa évolue à l'image du reste de Tanger. La population de Tanger, quand j'en parle, dans les années... Écoutez, dans les années 50, j'avais 6 ans. Il y avait 150 000 habitants à Tanger. Aujourd'hui, nous sommes, d'après le recensement de 2014, 1 million. Mais les experts que je rencontre, vous êtes au moins 1 million et demi. Imaginez un petit peu, c'est 10 fois la population qu'il y avait. Puis la composition de la population. À l'époque, il y avait pour 20 000 Espagnols, 15 000 Juifs, 13 000... les Français étaient 7 000. Aujourd'hui, vous savez combien il y a de Français inscrits ? 2500. Vous savez combien il y a de Juifs actuellement à Tanger qui étaient 15 000, 20 000 ? Moins de 30.
Mais alors, la nostalgie de l'ancien Tanger, c'est une question de génération ou c'est une question de nationalité ? Parce qu'on peut comprendre que les ressortissants européens, occidentaux, soient nostalgiques de cette période, mais qu'en est-il des Marocains, des Tangérois, par rapport à l'époque de la zone internationale ?
Moi, d'abord, je ne l'appelle pas nostalgie. Je l'appelle la nostangie, avec un N au lieu d'un L. Et ça a fait son chemin, ce mot. Parce qu'il y a un certain nombre de repères dans Tanger, des lieux de mémoire. Le café Hafa est incontournable dans une visite de Tanger. On ne peut pas dire qu'on a visité Tanger sans avoir visité le café Hafa. Alors le café Hafa, le charme, c'est justement ces escaliers avec les tables qui permettent d'être tout le temps en face de la mer, en face du détroit. L'Espagne, nous l'avons en face, la marée, nous allons continuer à la voir. Ce qui fait le charme du café, c'est également les rencontres qu'on peut faire. Vous n'êtes pas à l'abri de rencontrer des célébrités au café Hafa. Quand on parle de ces écrivains qui sont venus, ils sont venus voir quelque chose, retrouver quelque chose sur la trace d'autres qui avaient aimé cette ville avant eux. Et Paul Bowles, il a servi Tanger quand elle vivait sa période de crise, où elle était délaissée.
C'est-à-dire quelles années précisément ?
Entre les années 70 et 90. Paul Bosch recevait à Tanger beaucoup de bon monde. Et il parle, quand il sortait pour aller vers la plage de Rmelkala, une très jolie plage. Et je crois qu'il situe là-bas le jour où il avait avalé pour la première fois du majoun.
Juste le majoun, qu'est-ce que c'est ?
C'est une sorte de petit gâteau. Juste une dragée de chocolat. Sinon, il est enroulé sous forme de pâte d'amande. Donc, il est moins dur, mais il est fait avec du kif. Voilà. Autrement, le kif, ici au café Hafa, il se fumait. Il se fume dans tout Tanger. Moi, je fais une grande différence entre Bowles et la Big Generation. Eux, ils sont dans des endroits en train de chercher des expériences, surtout Burroughs, plus que tous les autres. Je trouve que Paul Bowles n'est pas à ce niveau. Il parle d'une ville, il parle de contact avec des amis, avec plein de monde, etc. Et Paul Bowles, il ne pouvait pas se sentir mieux qu'à Tanger. Et parmi les lieux où il pouvait être à l'aise, c'est cet endroit, comme le café Hafa.
Dans les années 60, après l'indépendance du Maroc, Tanger perd son statut international, mais pas son aura. Car dans le sillage de Paul Bowles sont arrivés d'autres vagabonds américains, férus de transgressions et d'expériences, la Beat Generation. Ces damnés de l'Amérique fuient l'opulence et le conformisme. Parmi eux, William Burroughs, Allen Ginsberg et Jack Kerouac, suivis par les Rolling Stones ou Jimi Hendrix. Paul Bowles a longtemps été consacré, à tort, chef de file de cette bohème nord-américaine. Mais le mythe est déjà édifié, solide, coriace. À Tanger, dans le musée de l'ancienne légation américaine, situé dans un élégant bâtiment mauresque, on perpétue le mythe, dans un espace truffé de photos et d'objets de Paul Bowles. Itima Dbouzian est directrice adjointe de la légation américaine.
Nous avons ses valises, donc quand il est venu s'installer ici, donc à Tanger, il y a séjourné jusqu'en 1999. Et c'était, enfin, il faisait partie de notre patrimoine, Paul Bowles. Par exemple, donc, il y a beaucoup d'écrivains, quand ils venaient à Tanger, donc ils transitaient par aller rendre visite à Paul Bowles. Donc on le voit avec Truman Capote, avec Jane Bowles, donc Tennessee Williams, William Burroughs, donc la Beat Generation aussi a transité par Tanger, donc elle rendait visite à Paul Bowles. Donc là, c'est une pièce consacrée à cette vie littéraire qu'a connue Tanger à l'époque de Paul Bowles jusqu'à son décès.
Vie littéraire et cinématographique. Là, je vois l'affiche du film de Bernardo Bertolucci, l'adaptation d'un Théo Sahara.
Tout à fait, effectivement. Donc, oui, exactement, avec John Malkovich et Deborah Winger. Et donc aussi, c'est grâce à Paul Bowles que Mohamed Mrabet et puis Mohamed Choukri aussi, donc le fameux Mohamed Choukri, l'écrivain analphabète qui a commencé à lire et à écrire à l'âge de 20 ans et qui a rencontré Paul Bowles, qui l'a encouragé à parler de sa vie, et donc c'est là où il avait écrit le pain nu. Et puis là, nous avons Mrabet. Donc lui, il racontait des histoires et Paul Bowles les transcrivait. Et il était aussi artiste peintre.
Alors là, on le voit avec Claude Nathalie Thomas, non ?
Tout à fait. Elle a traduit tous les ouvrages de Paul Bowles en français.
Paul Bowles regarde l'objectif et Claude Nathalie Thomas le regarde lui.
Et puis là, on voit en train de, donc, d'écrire, d'utiliser la machine à écrire. Et que nous avons d'ailleurs, nous avons une qui lui a appartenu, qui nous l'avait offert aussi. Donc, il est juste ici.
La machine à écrire de Paul Bowles. On peut toucher ?
Oui.
Alors, Paul Bowles, il écrivait directement sur la machine à écrire. Il ne passait pas par l'écriture manuscrite pour ses œuvres ?
Peut-être qu'il prenait des notes aussi, mais c'est surtout avec son Olivetti. Alors, plusieurs personnes ne savent pas que Bowles était aussi compositeur et musicologue et musicien. Donc, en 1959, il a bénéficié d'une bourse Rockefeller. Et donc, il a sillonné le Maroc et il a enregistré la musique marocaine, donc à travers les villages. Et c'est vraiment c'est un trésor, parce que nous l'avons rapatrié il y a de cela à peu près 7 ans. Et puis, c'est 72 heures d'enregistrement de ce beau patrimoine marocain.
On entend d'ailleurs un peu de musique en fond. Qu'est-ce qu'on entend là actuellement ?
Tout à fait. Actuellement, nous entendons les gnawa. Donc, c'est une musique traditionnelle marocaine qui est venue de l'Afrique subsaharienne. Donc, il y a ses origines subsahariennes. Et Paul Bowles, c'était un amoureux de cette musique-là.
Alors là, on a une carte du Maroc. C'est les zones où il s'est rendu pour enregistrer.
Tout à fait. Et c'est lui qui a dessiné la carte. Et donc là, c'est un témoignage des villages qu'il a sillonné.
Vous pouvez nous en citer quelques-uns ?
Par exemple, donc Djadjouka, qui était très connu. Donc c'est dans ce village-là justement que les Rolling Stones et Brian Gaysing étaient venus.
Donc plutôt dans le Rif ? ou non, dans l'Atlas.
Il a fait tout le Maroc. Il a un peu, quand on écoute un peu les 72 heures, c'est la musique du Nord, c'est du Sud aussi, des Rifains, des Chleuh, du Sousse. Nous avons une vision de ce que t'es donc la musique dans ces villages au Maroc.
Si loin, si proche, tous les voyages sont sur RFI.
Leurs mains sont bleues, 1963. Lorsque vous arrivez au Sahara pour la première fois ou la dixième fois, vous remarquez immédiatement la paix qui y règne. Un silence absolu, incroyable, prédomine à l'extérieur des villes. Et à l'intérieur, même dans des lieux agités comme les marchés, l'air a quelque chose d'assourdi, comme si le calme était une force consciente qui, refusant l'intrusion du bruit, le réduit et le dissipe aussitôt. Et puis, il y a le ciel, à côté duquel tous les autres ciels ne sont que de pâles essais, solides et lumineux. Au couchant, l'ombre incurvée, précise, de la terre, monte rapidement de l'horizon, y découpant une zone claire et une zone sombre. Quand toute la clarté du jour a disparu et que l'espace est rempli d'étoiles, le ciel est toujours d'un bleu brûlant, intense, très foncé au zénith, et plus clair en direction de la terre, si bien que la nuit ne devient jamais vraiment noire. Ici, dans ce paysage entièrement minéral, éclairé par les étoiles comme par des feux, même la mémoire disparaît. Il ne reste que votre respiration et les battements de votre cœur. Un processus de réintégration de soi étrange qui n'a rien d'agréable commence en vous. Et vous avez le choix entre le combattre et tenir à rester la personne que vous avez toujours été, ou bien lui laisser libre cours. Car personne, après un certain temps au Sahara, n'est plus tout à fait le même.
En Afrique, ce qui a été la grande affaire de Paul Bowles, c'est le désert. Le désert, c'est ce qu'il a le plus photographié et c'est quand même ce qu'il a le plus fasciné. Dans le désert, ce qui fascine Paul Bowles, c'est le ciel. Ce sont les régions du ciel, en fait, qu'il a arpentées alors avec cette propension à la solitude. Alors que franchement, il aimait beaucoup être entouré. C'était pas un solitaire total, mais il aimait ces longues plages de solitude. Il a écrit un très beau texte qui s'intitule « Baptême de la solitude » où voilà, c'est la nuit, une nuit qui vous écrase d'étoiles. En dehors du froid du désert, vous êtes saisi par cet isolement et cette solitude totale que procurait le désert à cette époque.
Ces habitudes, pour autant que je les ai pénétrées, c'était de travailler le matin, d'aller au marché à 3 heures de l'après-midi, heure à laquelle personne n'y allait plus, avec son chauffeur, de faire vite des courses, de rentrer chez lui et à partir de 5 heures, d'ouvrir sa porte aux visiteurs. Et un jour, je lui ai demandé... Mais vous recevez absolument n'importe qui, quand même. Il m'a dit, mais écoutez, je suis américain, j'écris en anglais, je n'habite pas dans mon pays, je n'ai pas le téléphone, je ne le veux pas. Si je ne recevais pas les gens, ben, personne ne lirait plus mes livres.
Il avait de la répartie, ce Paul Bowles.
Beaucoup, oui. Et parfois, sa répartie était un peu ambiguë. On ne savait pas si vraiment il se moquait de vous ou pas.
Après la mort de sa femme, Jane, dans les années 70, le refuge marocain de Paul Boyce, un modeste appartement situé dans l'immeuble Itessa, est un passage obligé pour les expatriés en quête de lettres et de mirages. Claude Nathalie Thomas l'a dit, notre homme sait manier l'ironie, le pessimisme aussi, tout en trompant une solitude dont il a besoin pourtant. Jusqu'à la fin de sa vie, Paul Boyce entretient donc le mythe à sa manière, ambiguë et séduisante. Aujourd'hui, sur ses traces à Tanger, il y a un autre passage obligé, la librairie des colonnes située sur le boulevard Pasteur. Simon-Pierre Hamelin est le directeur de ce lieu plein de mythes et de livres.
Alors, donc, c'est une librairie qui a ouvert en 1949, au beau milieu de la période internationale qui est malheureusement encore aujourd'hui beaucoup fantasmée. Donc il y a un fonds principalement de littérature, mais pas seulement. La librairie a longtemps été liée aux éditions Gallimard, mais aussi à de grands écrivains français du XXe siècle, notamment Jean Genet, Marguerite Yourcenar, sans compter les Américains que beaucoup connaissent. Et donc, c'est pour cette raison qu'on a aussi un rayon en anglais et en espagnol. On a quelques livres en allemand. Voilà, c'est un petit peu à l'image de ce qu'est la ville de Tanger, cosmopolite par nature et par nécessité. On a un rayon consacré à Tanger. Hein, c'est une espèce de... voilà, ce serait l'autel de ce temple de la littérature qui est la librairie des colonnes. Donc on a, voilà, vous voyez, on a nos images saintes, on a notre pèlerinage, on a nos icônes. Alors vous voyez la photographie de Paul Boyce, là, qui est bien éclairée, encadrée. À l'entrée, on a aussi Mohamed Choukri. Moi, je passe beaucoup de mon temps à me battre contre les fantômes du passé, et dont le représentant le plus significatif est probablement Paul Boyce, qui est un personnage très particulier. On parle très très rarement ici, malheureusement, de la littérature de Paul Boyce. On parle du reste, de la mythologie, des légendes, mais rarement du sens profond des œuvres. Il faut aussi signaler l'existence de la littérature de Jane Boyce, l'épouse de Paul,
qui est souvent négligée,
bon, bien que ça a été quand même republié récemment en français. Mais le couple Jane et Paul sont une vraie couleur littéraire qui est finalement très influencée par l'atmosphère du Maroc et plus précisément celle de Tanger. Jane Boyce parlait presque parfaitement le dialecte marocain. C'était moins le cas pour Paul, mais il a travaillé, lui, avec beaucoup d'auteurs qu'il a révélés, inventés. Il a retranscrit des contes, des short stories, avec notamment Mohamed Amrabet, qui est toujours vivant. Donc voilà, c'est un personnage un petit peu atypique, Boyce, qui n'est pas comme la cohorte des écrivains américains qui l'ont suivi, notamment ceux de la Beat Generation. C'est là plutôt quelqu'un qui s'est beaucoup intéressé à la culture marocaine, traditionnelle et contemporaine, et qui a réinventé une espèce de littérature marocaine, notamment dans le cas d'Amrabet.
Alors, dans un de vos textes, vous écrivez qu'ici, on souffre du syndrome de Tanger et que la librairie des colonnes en est la salle d'attente. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement ?
Le syndrome de Tanger, c'est une espèce de déformation du syndrome de Jérusalem, qui était connu au XIXe siècle, et de ce qu'on appelle aujourd'hui le syndrome du voyageur. C'est assez beau, puisque ça provoque des troubles de l'identité, une espèce de réinvention de soi. C'est un syndrome qui est absolument pas dangereux, que moi je trouve justement très bénéfique.
C'est une pathologie saine.
C'est une pathologie saine. C'est, voilà, c'est comment se réinventer et réinventer le monde, enchanter le monde au quotidien. C'est encore possible ici. Et malheureusement, dans notre Occident contemporain, c'est de moins en moins possible.
Dans ce petit passage, sous l'immeuble, il y avait un bar où venaient justement tous ces écrivains, tout ce monde interlope de Tanger, le Dinsbar. Là aussi, c'était un monde.
Un bar de nuit, du coup.
Un bar de nuit. Mais Tanger, il y avait une vie nocturne qui ne s'arrêtait presque pas. Imaginez Paul Bowles en train de passer ici, parce que partout, dans toutes ces rues, il y avait des bars, des restaurants, avec des tapas, avec plein de choses délicieuses.
Et alors, l'œuvre de Paul Bowles, quand elle parlait du Maroc, elle était fidèle ?
Je crois que oui. Mais c'était sa manière de voir. Et avec ses propres sensibilités. Nous n'avons pas les mêmes sensibilités pour les mêmes choses. Il parle de choses qui changeaient. Déjà, il disait que son Tanger était en train de disparaître. Ben, il le disait. Mais Tanger ne disparaît pas. C'est sa manière de voir Tanger qui ne se retrouve plus dans le nouveau décor de Tanger. Mais si vous voyez la place de France, elle est là. Elle n'est plus ce qu'elle était quand j'avais, moi, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mais elle est toujours là. Le mur des paresseux que nous voyons maintenant, avec sa vue qui est classée au patrimoine national. Depuis 1940, elle est classée.
On voit le port, on aperçoit le port.
La baie, on voit le Cap Balabada, on voit de l'autre côté Gibraltar. On voit les colonnes d'Hercule à partir d'ici. Ce n'est plus ce qu'il était par le passé. Il a changé.
I suppose one needs to count on the eventual dissolution of our European civilization.
Il faut s'attendre à la dissolution éventuelle de notre civilisation européenne qui sera remplacée par on ne sait laquelle. Mais quelle qu'elle soit, il faut s'y préparer et comprendre cette mentalité. J'imagine que le continent africain jouera un rôle. Et comme Tanger est la porte d'entrée de l'Afrique et en même temps la sortie de l'Europe, on en prendra conscience ici parce qu'on est bien placé à Tanger pour voir ce qui va se passer. Je ne le verrai pas, mais d'autres le verront.
Well, I shan't see it, but others will.
En 1999, Paul Bowles s'est éteint à Tanger, après avoir vu le monde défiler à sa porte. Son dernier voyage sera celui qui ramènera sa dépouille jusqu'aux États-Unis. « J'écris parce que je suis au pays des vivants », disait-il. Aujourd'hui, Tanger et son mystère lui ont survécu, tout comme son œuvre romanesque, au goût souvent amer, que l'on vous invite à découvrir. Vous y croiserez des personnages en errance, débarqués, loin de chez eux, irrémédiablement pris dans des tourments intérieurs, mais toujours en quête d'absolu. Paul Bowles, un Américain à Tanger, c'était un reportage d'Inès Edel Garcia. Merci à tous ceux qui ont bien voulu nous rapprocher de Paul Bowles et de Tanger. Céline Develay-Mazurel, Laura Larry, Inès Edel Garcia, on vous dit à la semaine prochaine pour un autre voyage. Religion du monde.